Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour passer une petite heure en votre compagnie. Nous sommes le mardi 17 mai 2022. Il fait un temps toujours aussi ensoleillé dans le Beaujolais. Les températures toujours aussi élevées. Ça monte à 29 degrés cet après-midi. Dans notre émission, nous allons retrouver le coach qui nous coach depuis plus de 2 ans et qui pourtant arrive encore à nous apprendre plein de belles choses. On va retrouver notre libraire en fin d'émission pour quelques petits conseils lecture, mais avant ça, eh bien, nous recevons nos invités du jour. Avec moi en studio, Franck Tavian, vice-président de Terre des Brouillis, et Nancy Blondin, responsable communication. Ils viennent nous parler du Brouillis Festival qui a lieu ce samedi 21 mai et qui, comme on peut s'en douter, est consacré au vin, au Brouillis, aux Côtes de Brouillis, deux appellations du Beaujolais. Et au programme de ce festival, eh bien, une balade ludique, un casino des Brouillis, un concours de la musique, un feu d'artifice pour terminer en beauté. On va s'intéresser donc à ce beau programme, à ce festival. Je suis certain qu'il y a beaucoup de curieux qui se demandent notamment ce que c'est que ce casino des Brouillis. Est-ce qu'il y aura des machines à sous qui font tomber des bouteilles de vin? Réponse dans quelques minutes. Restez à l'écoute. Avant toute chose, on commence cette émission en musique. Moi, les casinos, ça me fait penser à Elvis Presley, Little Less Conversation. On va écouter ça tout de suite. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music and dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. And come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And it'll satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
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 Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less bite, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby.
Little Less Conversation, ambiance casino dans Ensemble sur Calade avec Elvis Presley.
Ensemble sur Calade.
Allez, nos invités du jour sont Franck Tavian, il est vice-président de l'association Terre des Brouillis, et Nancy Blondin, responsable communication. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir en studio pour nous parler aujourd'hui du festival des Brouillis, qui aura lieu ce samedi. Avant de parler du festival, on peut rappeler ce que c'est que Terre des Brouillis. C'est une association, c'est un collectif, c'est quoi ?
C'est une association, c'est un collectif, c'est l'ensemble des producteurs, des crus Brouillis et Côtes de Brouillis, qui sont regroupés ensemble pour assurer la promotion, la défense, diverses commissions qui travaillent tout au long de l'année et pour faire avancer l'appellation qui existe pour Brouillis Côtes de Brouillis depuis 1938.
Ouais, 1938.
Ouais.
Et il y a 200 vignerons, je ne sais pas, j'ai vu ce chiffre.
300 vignerons, 300 producteurs de Brouillis et Côtes de Brouillis.
qui sont réunis
voilà, qui sont tous ensemble dans la même association. Et après, on, voilà, c'est partagé en commission. Là-dessus, on a des vignerons qui sont... on fait tous pousser du raisin.
Ouais.
Il y en a qui vont vinifier leur raisin. Il y en a qui vont aller à le vendre. Il y en a qui vont l'amener en cave coopérative. Il y en a qui vont l'emmener dans des vendangeoires.
C'est les nuances entre vignerons, viticulteurs...
On est tous vignerons. Ouais. On fait tous pousser de la vigne partout. Et on suit le même cycle. Hein.
Ouais. Hors antenne, quand vous êtes arrivé, je vous ai parlé de l'espace débrouillé. J'ai confondu terre débrouillée, espace débrouillé. L'espace, c'est la vitrine.
C'est complémentaire, on va dire, ouais. Voilà. C'est une autre structure. Hein. C'est une association de 1901, c'est Terre Débrouillis. L'espace Débrouillis, c'est une coopérative qui est la boutique des crus brouillis et côtes de brouillis, et qui est située à Salinger et qui assure 7 jours sur 7, toute l'année, la vente des vins de brouillis, de côtes de brouillis, de 53 producteurs.
Les appellations brouillis, côtes de brouillis, qu'on redéfinisse, qu'on sache de quoi on parle.
Alors brouillis, côtes de brouillis, c'est des noms connus. C'est sûrement même un des crus le plus connu. Morgon aussi, c'est vrai, Moulin à Vent fleurit tous, mais brouillis, voilà. On a deux appellations qui ont une consonance, au moins dans le nom, où on peut penser que c'est deux associations identiques. Sur une feuille à plat, comme ça, on va s'apercevoir que l'appellation côtes de brouillis est entièrement entourée de l'appellation brouillis.
Ouais.
Et en fait, si vous venez sur le terrain, sur les six communes qui sont productrices de brouillis, dont quatre qui font également du côte de brouillis, on va se rendre compte qu'en fait, ces deux appellations, par rapport aux huit autres crus du Beaujolais, elles n'ont pas de village qui porte le nom. C'est le Mont Brouilly qui a donné le nom au vin.
Ouais.
Et les anciens, ils avaient déjà vu que les vins sur le Mont Brouilly ne faisaient pas des vins identiques sur ce qui était autour du Mont Brouilly. Et en fait, quand on voit le Mont Brouilly, on comprend. C'est la géologie qui fait la différence. On est sur le même cépage, c'est du Gamay. Mais sur le Mont Brouilly, on fait des vins qui ont un petit peu plus de structure, peut-être, que sur les Brouilly. Et du coup, ça représente 1600 hectares, les deux appellations, et 25% des crus du Beaujolais.
On parle souvent de géologie, du géoparc Beaujolais dans le coin, et donc de la géologie du sol et de sa richesse dans le Beaujolais. On a une grande richesse de sol. Ils sont radicalement différents, Brouilly, Côte de Brouilly ?
Radicalement différents, c'est exact. Ouais. En fait, le Mont Brouilly, qui est au milieu, c'est une bulle de magma, donc on est sur de la roche volcanique, mais ce n'est pas un volcan, même s'il a cette forme. Hein.
Ouais.
Donc on a une pierre bleue, la diorite, hein, qui est unique, qu'on va retrouver qu'à cet endroit-là. C'est un cru qui est assez petit en taille, c'est 300 hectares. Brouilly est plus étendu, c'est 1300 hectares, avec des terroirs forcément différents. Mmh. Sur l'ouest, on va avoir des granites roses, comme ça on a l'impression de voir du sable, mais c'est des granites roses décomposés. Sur au nord, les communes de Cercier et les Salinger, on a des vieux plateaux d'alluvion. À l'est, on a un effondrement du plancher, on peut trouver avec des affleurements argilo-calcaires, donc des terrains aussi différents. Et puis sur le sud, là, Haute-Noche-Charentais un petit peu aussi, on a un mélange comme ça, argile-pierre bleue. Les anciens pensaient que c'était la même pierre bleue. Les géologues nous apprennent que c'est pas vraiment la même pierre bleue, mais toutes les fois, ça va donner des caractéristiques différentes à notre gamay, quoi.
Ouais. Et donc, là, ce que vous me dites, c'est que dans le Brouilly, entre Brouilly Nord et Brouilly Sud, on va avoir des sols différents et donc des vins différents avec même appellation.
Même appellation, on va avoir... Tous les vins ne vont pas être identiques, vous imaginez, en plus, il y a donc le terroir, hein, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'un terroir ? C'est un sol, c'est un climat ou un microclimat, c'est un cépage et un homme. Si en plus vous faites varier l'âge de la vigne, comment vous la travaillez, la date que vous la récoltez, vous faites une multitude de cuvées. Et en plus, on est après, aller encore un peu plus loin au niveau des crus brouillés, côte de brouillé et l'ensemble des crus du Beaujolais, sur la montée en gamme, pour reconnaître des lieux dits.
Hein, ouais.
Un petit peu comme les climats en Bourgogne, mais eux, ils ont protégé le nom climat avec un classement UNESCO. Donc en Beaujolais, on parle de lieu dit, et à terme, on va aller sur des premiers crus, c'est-à-dire des reconnaissances territoriales plus fines à l'intérieur de la terre, la zone d'AOC.
Et donc là, ce sera presque quelques parcelles qui vont avoir...
Sûrement, oui. Alors nous, on va proposer, on fait des dégustations depuis bientôt 2 ans avec ça, pour identifier tout ça, voir quelles sont les caractéristiques. Et à terme, quand on déposera le dossier auprès de l'Institut National des Appellations d'Origine, il y aura des commissions qui vont venir sur place, regarder, goûter, jauger, et donner un résultat qu'on ne maîtrise pas forcément. Nous, on lance des pistes et adviens ce qui adviendra.
Avant de parler du festival, j'ai une dernière question sur les vins. Est-ce que du coup, il y a un dénominateur commun dans les goûts d'un vin d'une même AOP, vu qu'on a des sols radicalement différents? Vous avez expliqué tous les paramètres qui viennent, Est-ce qu'il y a un dénominateur commun dans les
brouillés? On peut même aller plus loin que ça à l'échelle du Beaujolais. Le Gamay, il est sur son terrain de prédilection. Ouais. C'est environ 25 000 hectares, même pas tout à fait cultivés dans le monde. Donc, ce n'est pas un cépage très cultivé. Il y en a encore près de 14 000 en Beaujolais, rien qu'en Beaujolais. Et donc, dans la zone des crues, il est vraiment sur des terrains spécifiques granitiques, acides. On a également dans les Beaujolais villages. Et c'est des vins qui assurent de la convivialité, parce qu'ils sont sur le fruit, des tanins assez fins.
Le vin
c'est
des copains, j'ai lu qu'il parle.
Oui, le vin des amis, pendant un moment, c'était le logo, le slogan de Brouilly. Mais en fait, voilà, c'est ça, le Brouilly est un cru assez accessible. Ouais. Hein, souvent, des vins qui sont sur le fruit, des tanins assez fins, qu'on peut boire un peu frais, même quand il fait chaud, qui vont accompagner un simple casse-croûte ou un repas un peu plus élaboré. Le côte est un peu plus structuré, demande peut-être à vieillir un petit peu plus, mais plus peut-être une viande rouge, et voilà la différence un petit peu entre les deux appellations. Mais il y a de quoi découvrir chez chaque vigneron et chaque domaine.
Très bien. Et c'est ce que vous proposez de faire ce week-end, de venir découvrir ce que vous faites, ce que les vignerons font dans le Brouilly et les côtes de Brouilly.
Exactement.
L'idée de ce festival, elle vient d'où ?
Bah, ça vient des vignerons, en fait, eux-mêmes.
L'envie de créer un événement.
L'envie d'avoir un seul gros événement dans l'année, ouais, plutôt qu'en les démultiplier en fait, sur l'année. Ça fait déjà 2 ans hein, qu'on a un peu abandonné la partie événementielle, et du coup on s'est dit bah, pour la reprise ce serait bien d'en avoir un seul pour pas les monopoliser toute l'année en fait. C'est aussi le travail de vignerons, on se rend pas compte, mais ils sont multitâches, et du coup ils sont très 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 occupés à partir du printemps, et justement ça permettait de les monopoliser sur une seule grosse journée. Là, dans le festival, il y a une quarantaine de vignerons qui seront présents sur la journée entière. Donc c'est un beau score, c'est une belle implication. En fait, le festival, il est venu à la base parce qu'on souhaitait moderniser le concours des vins. Ouais. C'est la 71e édition du concours des vins des crus Brouilly et Côtes de Brouilly. Et c'est un concours qui avait lieu qu'avec des professionnels jusqu'à présent.
D'accord.
Aujourd'hui, on va l'ouvrir au grand public sur la partie de l'après-midi pour faire un peu le déroulé en fait de ce concours.
On peut devenir jury du concours.
Exactement, on peut devenir jury amateur ou consommateur. L'après-midi, on va se mettre à la place des pros et déguster une quarantaine de cuvées en Brouilly et en côte.
Okay.
Le matin, il y a une présélection qui sera faite par les pros, parce qu'on garde quand même la partie professionnalisante du concours.
Ouais.
On a une quarantaine de professionnels qui seront là le matin pour déguster à peu près 200 cuvées. Donc là, on est sur un panel beaucoup plus large. Et si on présente les 200 cuvées aux amateurs, aucun intérêt, ils vont être complètement perdus.
À la fin de la journée, on ne fait plus la différence entre deux verres de vin.
Ouais, on sait qu'au bout d'une dizaine, ils vont saturer. Donc,
faire une prescription. Là, sur les 40 qu'on va leur laisser à déguster, je pense que
ça fait déjà beaucoup,
faut qu'on dispatche en fait les amateurs en plusieurs groupes et qu'ils n'aient pas 40, mais plutôt une quinzaine de vins à déguster.
Ouais.
L'objectif, donc, c'est de primer en fait les trois plus belles cuvées en Brouilly en côte, et de récompenser nos vignerons avec des prix qui sont proposés par des partenaires, des prestataires pour la filière viticole. Donc ça va être des bons pour une mise en bouteille, des filtrations, mais on a aussi la partie, on a impliqué les restaurateurs locaux.
Ouais.
Et de faire des mises en avant des primés en fait. Voilà.
Donc
aujourd'hui, on a rendu le concours, on l'a modernisé, on l'a rendu plus ludique et puis plus attractif pour les vignerons aussi.
Et pour les gagnants, il y a plus de.
Exactement, il y a plus d'enjeux.
Et la mise en avant dans
les restos,
dans les restaurants, c'est-à-dire que ceux qui...
Bah, pendant une semaine ou deux, en fait, ils seront des vins qui seront proposés à la bouteille ou au verre, qui seront présentés par les sommeliers des restaurants correspondants.
Super. Voilà. Vous avez évoqué la balade de la biodiversité. Qui est aussi au programme. Là, c'est la
tout
partie un peu plus ludique et aussi plus accessible.
C'est vraiment tout public.
Tout public.
On déconseille les poussettes, par contre.
Oui, parce que c'est une balade.
C'est quand même une randonnée. Hein.
On
est dans les vignes. Poussettes, ça passera pas.
À part s'il y a des grosses roues et que c'est
exactement.
Un 4x4, la poussette. Mais...
Ouais, si les parents ont l'habitude, et qu'ils s'en soient conscients.
Du coup, cette balade, c'est la deuxième édition. On l'a déjà faite l'année dernière. Avec donc les vignerons de la commission environnement et paysage, donc qui travaille sur la biodiversité des vignes. Cette balade, elle est là pour impliquer le grand public, métiers locaux, dans la démarche qui est engagée par nos vignerons sur, sur un mieux-être environnemental au niveau des vignes, pour expliquer également pourquoi aujourd'hui on a des différences de paysage au niveau de, des vignes qui vont être plantées à 2 mètres, des vignes qui vont être plus étroites, qui, des tailles, enfin des cèpes qui sont pas du tout conduits de la même manière en fait, avec une taille guyot ou une taille en gobelet.
C'est-à-dire que quand après la balade, quand on va voir les paysages de vignes du Beaujolais, qu'on va voir les différences entre les parcelles, on va pouvoir comprendre.
Exactement, l'idée c'est ça.
Là pour expliquer.
Vous avez dit le mot, c'est pour comprendre.
Comprendre ce qui se passe dans les vignes et ces paysages.
On se rend compte que tous les habitants du Beaujolais, la plupart, ne connaissent pas ce qui les entoure.
Ça fait partie du décor, c'est là, ces vignes.
Mais pourquoi, comment, parce que...
Ouais, mais comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas toujours.
Voilà,
et du coup, l'objectif, c'est de faire des départs de cette balade qui va faire 3,5 km à peu près. C'est 2h30 parce qu'on a deux arrêts au stand sur le parcours. Et tout du long, en fait, ils sont accompagnés par un guide vigneron. Donc, c'est une autre facette, c'est un nouveau métier du métier de vigneron. Aujourd'hui, enfin, le samedi prochain, ils seront dans cette phase guide. On explique comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui. Voilà.
C'est la partie œnotourisme, ça, qui se développe beaucoup. Et les...
Aussi, ça fait partie de l'œnotourisme.
En fait, c'est assez simple, malgré tout, parce que c'est juste parler de son métier. Mais il faut juste provoquer un moment, une rencontre entre le professionnel et l'amateur éclairé ou le visiteur pour qu'ils puissent communiquer et chacun comprendre pourquoi l'autre se pose des questions et avancer. C'est ça qui est super. Et on l'avait testé l'année passée. C'est quelque chose qui avait bien fonctionné, très bien fonctionné.
Très bien
donc,
fonctionné.
C'est pour ça que c'est reconduit, quoi.
Et c'est accessible aux petits, ce que je disais, c'est qu'il y a un quiz, je crois, il y a un jeu.
Il y a un jeu qui est prévu, un quiz à remplir tout au long du parcours et qui sera corrigé par les personnes qui seront sur les stands. Donc on a Jérôme Berruyer qui fait partie de la Fédération de chasse du Rhône, qui sera là pour expliquer tout l'intérêt de la faune et l'intérêt de replanter des haies au niveau des vignes, ce que ça apporte au niveau de la biodiversité, au niveau des animaux. On a une ethnobotaniste, Gabriella Camarana, qui sera là. Donc ethnobotaniste, c'est un peu compliqué à comprendre, mais l'idée, en gros, c'est
Spécialise des plantes.
Spécialise des plantes et elle explique comment est-ce qu'on peut utiliser les plantes autour de nous pour soit les manger, soit les utiliser en pommade. Enfin, voilà, c'est
et elle fait une super chronique sur Radio Calade qui est diffusée le mercredi autour de 12h35 à peu près. Gabriel Caramana, la chronique, je crois, s'appelle Ampliflore et c'est très chouette.
Et c'est son nom, effectivement, son nom d'entreprise. Donc voilà.
Autre événement, animation qui aura lieu sur le festival, le Brouilly Festival, c'est ce fameux casino des
Brouilly.
Tout
à fait.
Qu'est-ce que c'est que ce casino des Brouilly,
en fait, on a voulu avoir un atelier assez ludique qui sera sur la thématique du vin, donc c'est évidemment déconseillé au moins 18 ans.
Bien entendu.
Et en fait, ce sont des tables de jeu qui vont être installées par Robin Alloin, qui fait partie de l'entreprise Vin Extenso, qui travaille que sur des ateliers ludiques comme ça et de la dégustation en séminaire. Là, l'idée, c'est d'avoir 3 tables de jeu sur thématique du vin. Donc, il y aura une table quiz pour, par exemple, retrouver des arômes. Et les participants vont pouvoir miser sur leurs résultats.
D'accord.
Voilà. Donc, plus on aura de points, l'objectif c'est d'avoir un maximum de points à gagner sur les 3 tables de jeu. Il y a un vin mystère à découvrir aussi. Enfin voilà, j'en dis pas forcément plus, mais.
Ok.
Et en contrepartie de ces points gagnés, ils auront des lots.
Il y a des lots à gagner.
Des bouteilles, des sommeliers, des verres.
Super. Voilà. Donc c'est pour tester son nez, son palais.
Exactement. Exactement. En fait, c'est un circuit sur les sens.
Ok.
Voilà. Il n'y aura peut-être pas le toucher, par contre.
Oui, peut-être pas. Et puis, des animations le soir, avec la remise du prix du concours, un concert avec un brass band et un petit feu d'artifice pour clôturer la soirée.
Un gros feu d'artifice.
Et chose qui m'a amusé, moi, le lendemain, il y a une matinée cycliste, alors c'est pas forcément...
Exactement, c'est le petit bonus.
c'est pour le bonus. Les courageux, ça.
Ouais, c'est ça.
Mais pas que, on peut le faire aussi avec une vélo d'assistance électrique et passer un bon moment.
Hein. Ouais. Donc matinée cyclisme autour du Mont Brouilly.
Donc le Mont Brouilly est fermé sur ses deux faces aux véhicules à moteur et réservé au mode doux et vélo ce jour-là, de 7h à 12h. et avec sur le parcours possible des siphonnées, qui est une randonnée, elle, permanente, qui existe sur le Mont Brouilly, en partenariat avec le cyclo Tourisme Formidable, et qui fonctionne toute l'année. Et on a déjà sûr qu'ils vont faire les siphonnées. J'ai eu tout à l'heure Franck de Gliani, on a déjà 12 personnes inscrites qui viennent pour faire le grand parcours des 92 km. Donc ils vont passer déjà, ça fait 72 passages de vélo.
Ils passent 6 fois sur le mont, quoi.
Ok,
c'est peut-être pas eux qui vont finir le DJ le
ouais, concert à minuit, quoi. Je suis pas sûr.
Très bien. En tout cas, le Brouilly Festival, c'est donc le 21 mai. Est-ce qu'il faut réserver quelque chose, s'inscrire quelque part?
Non, en fait, on a fait simple. Du coup, il n'y a pas d'inscription ni pour la balade, ni pour. Si, pour le concours, c'est mieux, parce que si on peut organiser nous en amont les jurys, c'est plus simple. Après, oui, les participants peuvent venir à 15h pour le concours et on s'organisera nous en interne.
Ils seront les bienvenus.
Et le casino, c'est ouvert aussi.
Donc. On n'a peut-être pas dit le lieu d'ailleurs, c'est à Quincy.
C'est Château du
Souzy. Château du Souzy. C'est sur la route Belleville-Beaujeu. C'est assez facile à trouver.
C'est effectivement l'idée. En fait, Château du Souzy, c'est un lieu qui est ouvert depuis l'année dernière et qui n'est pas forcément encore très, très visible par les locaux. Donc c'était aussi de choisir ce lieu-là pour se dire venez voir le château, profitez-en pour venir visiter aussi. Voilà.
Très bien. Et on retrouve toutes les informations sur terredesbrouilles.com et éventuellement les réseaux sociaux, j'imagine.
Exactement, en fait, sur les réseaux. Là, je relais depuis un mois et demi. Et jeudi prochain, donc là, ce jeudi, je fais gagner la dernière place pour participer au casino. Parce que le casino est payant, évidemment, on mise. Donc c'est 15€ l'entrée et ce sera jeudi.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, Franck Tavian, Nancy Blondin, merci d'être
venu. Merci à vous.
Merci.
Bienvenue dans notre émission. À très bientôt et merci. Bon festival.
Ensemble sur Calade.
Allez, un petit peu de musique. Je crois qu'au festival, il y aura un brass band et je me suis dit qu'on allait écouter un brass band du coup dans cette émission. Le Rubber Brass Band avec Do What You Wanna. Wachuana, c'est l'invitation que nous fait le brass band Rebirth Brass Band pour les heures en entier.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Ah oui, il est l'heure de retrouver le coach. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Vous allez bien en forme ?
Eh ben, ça va bien. Un peu chaud, dis donc, mais ça va.
Il fait chaud, effectivement. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? C'est fini,
aujourd'hui,
les
enfants ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que les enfants ont en commun avec les chiens.
Ah bon, d'accord.
Alors, je sais que commencer comme ça, c'est pas terrible. On va croire que je vais dénigrer les enfants ou les chiens. C'est pas du tout le cas, mais je me suis rendu compte, figure-toi, gamin, que les enfants ont en commun avec les chiens, c'est que lorsque tu les emmènes se balader dans la nature, ils finissent toujours par ramasser un bâton, à un moment. Ouais. Et ils te le rapportent tout fier. Et ensuite, il faut bagarrer pour qu'ils acceptent de lâcher le bâton pour rentrer dans la voiture.
C'est
et ça, c'est valable aussi bien avec les enfants qu'avec les chiens.
Ouais, et parfois, certains adultes, moi, quand je me balade et que je trouve un chouette bâton, je le ramasse avec plaisir.
Parce qu'il y a des adultes qui sont restés des gamins, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
En tout cas, ils sont trop mignons. T'as toujours l'impression qu'ils ont trouvé un trésor et ils trimballent leur bâton pendant toute la balade. Et objectivement, le bâton les encombre plus qu'autre chose, mais ils ne le laisseraient de côté pour rien au monde. Alors, il faut quand même reconnaître que dans ce point commun, la passion des chiens pour les bâtons est bien moins imaginative que celle des enfants. Elle est plus limitée. Mmh. Les chiens, ils portent le bâton et à la rigueur, quand tu le balances, ils vont chercher le rapport. Enfant, c'est autre chose. Un bâton, même à moitié pourri et vermoulu, est toujours la clé de grandes aventures. L'imagination des bambins est sans limite. Tantôt une épée, tantôt une canne ou une baguette de sorcier. C'est Dumbledore contre Gandalf dans la forêt. Avec un bout de ficelle, les voilà partis à la pêche aux poissons des bois. Les plus hardis fabriquent un arc ou une flèche tahitienne, qui peut parfois partir très très loin, presque à 100 mètres.
Ouais.
Et pour les plus créatifs, les bouts de bois deviendront une œuvre de land art éphémère ou un mobile à accrocher dans les arbres, voire un mandala naturel. En tout cas, il a été démontré que les enfants ont besoin de se retrouver régulièrement dans la nature, dans la forêt. Cela a des effets bénéfiques sur leur bien-être, leur imagination, leur connaissance du vivant, leur sens de l'observation et leur sens de l'orientation. Le temps passé dans la nature et en forêt est très bon pour leur développement physique, vous vous en doutez. Mais au-delà du bienfait apporté par le contact avec la nature, les jeux d'imagination avec des bouts de bois et autres bâtons apportent un support de créativité et d'imagination infinie. C'est un moment de liberté qui permet d'expérimenter des choses, de tester la solidité d'une construction, de chercher dans son environnement la solution à un problème posé par le projet d'enfant. Les mômes vont développer un savoir, par exemple sur les différentes essences d'arbres présentes en forêt et sur les propriétés de leurs bâtons respectifs. La flexibilité du coudrier du noisetier, la branche de sureau dont on peut vider le cœur facilement pour ne citer que ces deux exemples. Et là, gamin, pour que l'expérience soit complète, nous devons aborder une question essentielle pour tout enfant qui vit ses aventures en forêt. À partir de quel âge peut-on le laisser utiliser un couteau pour ses bricolages et réalisations ?
Mmh.
Oh, tu dirais quoi, gamin ? À quel âge tu laisserais un bambin avec un couteau, toi ?
Je sais pas, j'allais dire 10 ans, mais après, j'en ai pas...
C'est pas mal, 10 ans. Un couteau ou autre chose, hein. Je sais qu'il y en a qui se baladent tout le temps avec une espèce de pince multifonction qui ressemble à un couteau suisse.
Ouais.
Mais la vraie question, c'est à partir de quel âge on peut lui faire suffisamment confiance pour prendre le risque d'utiliser un objet dangereux.
Ouais.
Et dans certaines familles, il est de tradition d'offrir un couteau suisse aux enfants, par exemple, ou à l'opinel.
Ouais.
Dans certaines familles, il est difficile d'imaginer laisser son enfant utiliser un objet dangereux tel le fameux couteau suisse pour jouer. Pourtant, cela favorise aussi son développement et sa confiance. Si vous lui faites confiance pour utiliser un outil dangereux, alors il fera attention. D'autant plus si vous avez pris le temps avec lui de passer en revue les conditions d'utilisation avec le maximum de sécurité. Bien entendu, nous ne pouvons pas prévenir à 100% le risque de coupure ou de blessure. Mais nous pouvons anticiper avec lui comment réagir en cas de coupure et de blessure. Tu vois le potentiel du truc, gamin ?
Eh ben,
en plus, Et oui, en plus de faire une enfant débrouillarde, par exemple, bah, tu peux mettre au travail tout un tas de sujets qui seront concrets pour la môme. Mmh. Parce qu'on n'offre pas des couteaux aux garçons, on offre aussi aux filles, il n'y a pas de raison.
Oui.
Vous l'avez compris, hein, mes louloutes, le plus beau cadeau que l'on peut faire à ses enfants, alors c'est pas forcément un couteau, ça c'est chaque parent qui décide, mais c'est de les accompagner en forêt pour leur permettre de vivre des aventures intenses et passionnantes et pour leur permettre de développer leur autonomie. Mmh. Pour terminer, je vais vous conseiller un bouquin très bien fait qui a déjà une dizaine d'années derrière lui. Ce livre, il s'appelle « 1000 choses à faire avec un bout de bois ». Il est publié chez Gallimard Jeunesse et il est sans doute disponible à la commande chez votre libraire préféré qui, si je ne me dépêche pas, va râler parce que j'ai pris trop de temps. En tout cas, 1000 choses à faire avec un bout de bois, c'est un livre créatif avec plein de choses à réaliser avec des bâtons, des bouts de bois, après une bonne balade en forêt ou pendant la balade en forêt. Et c'est vraiment un livre génial, c'est presque un livre magique. Voilà. Donc pour résumer, aller en forêt pour jouer avec des bâtons, c'est génial. Par contre, c'est beaucoup plus génial que d'aller jouer en forêt avec des petits cailloux parce que ça a tendance un peu à rendre les gamins suspicieux, comme le petit pousset.
Oui, c'est vrai, ça peut les inquiéter. Merci beaucoup, coach.
Allez, salut mes louloutes, salut mon gamin, à bientôt.
À très bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Allez, moi quand j'étais pitchoun et que je trouvais un bâton, je devenais tout d'un coup un chevalier Jedi.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
C'était Dionysos sur CAD avec l'un de leurs premiers morceaux, si je dis pas de bêtises, Song for Jedi. Et c'était plutôt chouette comme morceau.
Ensemble sur CALAD.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, il est l'heure de retrouver Bertrand Lamure, notre libraire. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Est-ce que vous étiez un Jedi quand vous étiez petit, Bertrand?
Alors en fait, intérieurement peut-être, extérieurement non. Mais c'est tout le truc du Jedi, quoi. C'est que,
oui.
C'est intérieur.
C'est quelque chose d'intérieur. Bon,
voilà, mais voilà, ça doit être mon côté punk Jedi intérieur.
Très bien.
Mais j'ai jamais trouvé, bizarrement.
De quoi avez-vous prévu de vous parler aujourd'hui avant que je vous parle de Jedi?
Eh ben, la rentrée.
La rentrée?
Eh ben oui, et oui. En mai, nous parlons de la rentrée. Alors, eh ben oui, donc je sais. La rentrée littéraire, et j'en parle un 17 mai.
Ben
ça
oui.
n'a absolument aucun sens. Mais est-ce que la vie a un sens, Mathieu? C'est là quand même la grande
toujours.
Question qu'on pourrait se poser. Alors, en fait, non, si j'en parle, c'est d'abord que j'avais envie d'en parler. Et puis, c'était aussi pour vous montrer un petit peu voilà, l'arrière-cour, on va dire, de ce qui se passe pour les libraires dès le printemps.
Ouais.
Où les libraires, évidemment, sont toujours des personnes passionnées qui passent leur temps à lire en vacances ou tout au long de l'année. Et effectivement, nous, les libraires, les éditeurs, c'est même encore plus tôt, mais les libraires, bossent la rentrée littéraire très en amont et de coup dès le mois de mai.
D'accord.
C'est une période que j'adore,
ouais.
Parce que c'est une période où on a un peu plus le temps de préparer et surtout de rencontrer des auteurs, des éditeurs. Et ça se passe en ce moment. Donc j'avais un petit peu envie de parler de ça parce que pour nous, je sais que c'est le cas par exemple pour les rencontres que l'on fait avec des auteurs, donc auprès des lecteurs et des lectrices, il y a toujours un petit côté magique de rencontrer une auteure, un auteur, de passer un moment, d'avoir un échange. Alors bon, parfois c'est le grand flop, hein, mais en règle générale c'est toujours très très intéressant. Et donc c'est évidemment le cas aussi pour nous, les libraires, de se dire ben on rencontre des auteurs avec qui on va pouvoir parler d'un titre qui évidemment sort dans peut-être 3 mois, et ben quand même qu'on va un petit peu commencer à lire, parce que comme chaque année, et j'aurai évidemment l'occasion d'en reparler, il y a toujours plus de 500 romans qui sortent lors des rentrées littéraires.
Donc là, vous êtes déjà en train de lire des livres qui vont sortir.
Ouais, parce que le monde est fou. alors, juste pour vous donner un petit aperçu du background des libraires, par exemple, hier, c'était la rentrée littéraire Flammarion. Donc Flammarion, très bonne maison, etc. Et donc c'est l'occasion effectivement de rencontrer, pour le coup hier c'était de rencontrer et de déjeuner avec les auteurs qui vont sortir un nouveau livre à la rentrée, ils sont tout prêts, etc. Donc voilà, pour montrer que tout ça est arrêté quand même des mois à l'avance. Pour vous... peut-être mettre un peu l'eau à la bouche, par exemple, il va y avoir un nouveau Olivier Adam qui va s'appeler Dessous les roses. Dessous les roses, c'est parce qu'il y a une famille qui va enterrer le père. Alors, enterrer le père, c'est toujours beaucoup, beaucoup d'émotions, évidemment, beaucoup de tristesse, mais c'est aussi l'occasion de que tout le monde se retrouve. C'est aussi l'occasion de faire le point sur une fratrie, et là, évidemment, c'est une fratrie un petit peu dysfonctionnelle, ça sera l'occasion de mettre les points sur les i, ou au contraire de pas du tout trouver le point pour le i. Et Olivier Adam est quelqu'un de très sympathique, donc c'était très agréable de discuter avec lui, et je suis en train de lire son livre du coup justement, je suis en plein dedans, on l'a eu hier, et du coup c'était très intéressant. Je vous en cite quelques-uns, mais rapidement, hein, parce que c'est pas le but de mettre trop l'eau à la bouche, parce que c'est que dans 3 mois.
Il va falloir attendre 3 mois quand même.
Ouais, mais c'est ça, c'est bien, la vie n'est qu'attente. juste un petit, parce que je vous donne juste un peu le résumé de celui de Grégoire Bouillet. Donc Grégoire Bouillet est un personnage assez extraordinaire, il part sur dans tous les sens, etc. Et évidemment il fait des livres de 900 pages, alors du coup ça nous fait hurler à chaque fois en disant les 900 pages, quand est-ce qu'on va le lire? Et alors là, attention, une histoire extraordinaire autour de Marcel Pichon. Alors, évidemment, Mathieu, tu vas venir me dire, mais qui est Marcel Pichon?
Ah oui, ça me dit rien.
Et là, je dis, alors là, quel drame. Hier, à 11h, je ne connaissais pas Marcel Pichon, c'est à préciser. En fait, personne ne connaît Marcel Pichon. Elle a été mannequin, pourtant, dans les années 50. Et cette femme, à 64 ans, a écrit un journal sur les 45 jours de son agonie parce qu'elle avait décidé de se suicider en ne mangeant plus. Très fun.
Ouais.
Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, on l'a trouvée 10 mois après son décès momifié. Voilà.
Wow.
Et mais bah, donc derrière ce fait divers sordide, bien évidemment, Grégoire Bouillet va nous faire, va essayer de nous faire comprendre et va remonter à qui est cette femme, d'où elle vient, quelles sont ses origines, qu'est-ce qui fait qu'elle a pu en arriver là. Et du coup, ce qui est très intéressant, on déjeunait ensemble et je lui disais, mais elle n'avait pas d'enfant, cette femme, elle n'avait pas de relation. Et voilà. Et c'est encore plus intéressant de pouvoir échanger justement quand on va se plonger dans un livre.
Ouais.
Et puis, c'est aussi, moi je suis très attaché à garder un lien avec des auteurs, qu'on invite, des titres qu'on aime bien. J'en ai déjà souvent parlé. Et là, je suis très touché d'avoir deux auteurs qui sortent un livre et deux auteurs qu'on a reçus et qui, j'espère bien, nous pourrons de nouveau recevoir. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle chose dans l'univers de chacun, comme ça, d'avoir ce lien qu'on va perpétuer. Et c'est le cas en particulier avec Brigitte Giraud. Donc Brigitte Giraud, elle est de la région à la base, elle est de Lyon, mais c'est aujourd'hui une écrivaine nationale, reconnue, c'est aussi une musicienne. Elle a un univers qui est touchant, qui est très sensible. Et là, elle revient à un texte qu'elle a beaucoup eu dans la tête. Ça s'appelle « Vivre vite ». Et dans ce texte-là, elle revient sur le 22 juin 1999 où son mari est décédé d'un accident de moto. Et elle revient sur, c'est un texte qui est très beau, le peu que j'en ai pour l'instant aperçu, en tout cas ce qu'elle m'en a dit, sur cette idée du « et si ça n'aurait pas dû se passer ?» En fait, il n'aurait pas dû aller chercher mon fils à l'école. Il n'aurait pas dû faire toute une série de choses. Et si. Et en fait, c'est un texte qui a beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc c'est très touchant. Et je fais le lien avec un deuxième auteur qu'on avait reçu, qui s'appelle Victor Gestin, qu'on avait reçu pour un premier roman qui avait marqué pas mal de... deux mondes qui se passaient dans un camping qui s'appelait La Chaleur, donc c'était une nuit d'été, et un jeune homme assiste à un accident d'un autre jeune homme et il fait rien pour le sauver. Et c'était un premier roman, donc sur les premiers romans, c'est bien, c'est pas bien. Et là, il y avait une écriture, il y avait quelque chose qui était assez magnifique. Je suis désolé, je tousse comme mardi dernier.
Eh bien,
donc j'en suis désolé, mais voilà, ça ne passe pas.
C'est le problème, c'est le problème, donc, c'est la saison.
Excusez-moi. Et donc là, ça revient sur un univers de boîte de nuit. Et sur un homme qui fréquente les boîtes de nuit. Et pendant 20 ans, il va fréquenter ces boîtes de nuit avec cette idée de... la danse, tout ce que ça implique, c'est-à-dire chercher l'autre, se faire remarquer, combattre une solitude, être au cœur de cette nuit. Donc c'est un texte que j'attendais depuis longtemps. Et puis c'est un jeune homme, hein, il a 27 ou 28 ans. C'est un texte qui est porté par quelqu'un qui est très très intéressant parce qu'il fait comme ça un peu un jeune dégingandé. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une culture, un univers. Il y a vraiment une patte d'écrivain. Et c'est extrêmement touchant de discuter avec lui et de se plonger un petit peu dans un univers. Et on se dit, bah, quand on a cet univers-là à 27 ans, bah, oula, oula, la vie...
Qu'est-ce que ça annonce pour le futur ?
...va être, évidemment... très, très riche. Donc voilà, donc je pourrais continuer, évidemment, encore longtemps... Mais là, je ne vais plus pouvoir parler, donc j'ai vite vu. Mais sur cette magie de rencontrer en mai-juin beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs, pour parler effectivement de la fameuse rentrée littéraire.
Magnifique. Donc là, vous êtes en plein dedans et c'est pour nous préparer début septembre, c'est ça, découvrir.
C'est même à partir du 18 août, la rentrée littéraire.
Ouais,
donc on aura bien sûr le temps d'en parler. Mais c'était histoire de mettre l'eau à la bouche à tout le monde.
Moi, je crois que c'est fait, c'est réussi.
Et en tout cas, voilà, pour vous donner aussi l'idée que ben, voilà, les choses se passent longtemps en avant. pour nous, évidemment, à partir de ce mois de mai, et pour les éditeurs, encore 2-3 mois à l'avance, parce qu'en général, tout est bouclé à peu près au mois de mars, pour septembre. Donc voilà. Donc la prochaine fois, je vous parle des cadeaux de Noël.
Très bien, parfait. Merci beaucoup Bertrand, à très bientôt.
Bonne journée à tous.
Très bonne journée.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah en attendant que notre libraire nous parle de cadeaux de Noël, dans quelques minutes sur Calade, vous retrouvez vos pages d'information, le journal de RFI, et puis juste après à 13h10, le journal de Sylvie Rosier. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 12h12, pour un nouveau numéro d'Ensemble sur Calade, la quotidienne. Voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous laisse avec un petit groupe anglais, The Walters, Million Little Problems. À demain, ciao, ciao.
It's like the whole world stops and stares every time you walk on in. There's a lightning in the air as my heartbeat settles in. I'm trying to forgive myself for all the mistakes I've made, but you just look at me.
Ensemble sur Calade.